Bonjour et bienvenue, on va explorer aujourd'hui une série d'articles d'Africa Press. Ils sont tous du 14 mai 2025. C'est un peu comme une photo, quoi, un instantané de l'actualité africaine et de ses échos dans le monde à ce moment précis. Alors, on a sous les yeux des dépêches assez variées. On parle politique au Canada, avec une ministre d'origine burundaise.
Ah oui?
De tensions assez vives au Kenya, après des manifestations. Rapport climatique. Bon, assez préoccupant pour l'Afrique.
Oui, ça.
Mais aussi la présence du cinéma africain à Cannes, un litige au Niger entre une multinationale française et l'État.
C'est ça.
Et même une réorganisation à l'Organisation mondiale de la santé. Bref, pas mal de choses. L'idée, c'est de décrypter un peu tout ça ensemble, voir ce que ces nouvelles nous disent, en tirer l'essentiel et peut-être trouver des fils conducteurs. Prête à plonger là-dedans?
Absolument. Ce panorama nous met face à des réalités multiples, en fait. Des jeux de pouvoir politiques, des défis environnementaux qui deviennent vraiment criants, des questions de droits humains aussi fondamentales, des relations internationales parfois tendues, oui, et puis la vitalité culturelle du continent, à ne pas oublier.
C'est un mélange assez révélateur, en effet.
Tout à fait.
Alors, commençons peut-être par le Canada. Ce cas d'Ariel Kayabaga. Son parcours est quand même étonnant, non?
Ah oui, tout à fait. Arrivée du Burundi enfant, mère assez jeune.
Oui, à 18 ans, je crois.
C'est ça. Et puis, elle gravit les échelons députée et hop, nommée ministre des institutions démocratiques en mars 2025. C'est rapide.
Très rapide. Mais de courte durée, si j'ai bien lu.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Sa nomination par Marc Carnet, bon, ça pouvait être vu comme un signal fort d'inclusion, etc. Mais quelques semaines plus tard, en avril, elle est de mise de ses fonctions. Lors d'un remaniement.
Une éviction aussi rapide, c'est brutal quand même.
Oui.
Les sources parlent d'une analyse de Sam Routley, qui suggère que sa nomination, c'était peut-être plus un calcul électoral qu'autre chose.
C'est une des interprétations, oui, que ce n'était pas forcément un investissement politique à long terme. Et cette analyse pointe un possible recentrage stratégique du Premier ministre, peut-être moins favorable à sa région, l'Ontario.
Où elle est élue, c'est ça?
Exactement. Et où l'opposition conservatrice progresse. D'ailleurs, son portefeuille ministériel a été carrément supprimé.
Ah oui, d'accord.
Ce qui renforce l'idée d'un changement de cap politique, plus que d'une simple rotation de poste, vous voyez.
Je vois. Bon. Malgré ce coup dur, elle reste influente en Ontario, apparemment.
C'est ce que dit l'article, oui, sa carrière n'est pas terminée.
On reste dans le politique, mais changement d'ambiance radicale avec le Kenya. La situation là-bas semble très tendue.
Oui, alors là...
Le président William Ruto a fait des déclarations sur les militants disparus en 2024. Et ça a fait beaucoup réagir.
Effectivement. Le 12 mai, il affirme que tous les disparus ont retrouvé leur famille. Et là, tollé général. Des organisations comme Vocal Africa parlent de propos inexacts et méprisants.
Il faut rappeler le contexte, peut-être.
Ces manifestations de 2024. Oui, c'était contre la loi de finances. Et la répression a été très dure. On parle d'une soixantaine de morts et de dizaines de disparus. Et donc, beaucoup de familles disent être toujours sans nouvelles. D'où le choc face aux déclarations du président.
C'est une contradiction... énorme, en fait, entre le discours officiel et ce que disent les associations, les familles. Les sources parlent même d'un climat de répression, avec des rapports de l'ONU.
C'est toute la tension, oui. D'un côté, un discours qui cherche peut-être à clore un chapitre douloureux ou à rassurer. Et de l'autre, ben, des témoignages, des rapports qui montrent des abus des forces de sécurité, des atteintes aux libertés.
Et il y a des appels à des enquêtes indépendantes, je crois.
Oui, des personnalités comme l'opposante Martha Karua ou l'ancien président de la Cour suprême, David Maraga. Ils réclament des enquêtes pour faire la lumière sur ces disparitions, sur les violences.
La pression monte, donc.
Clairement. Pour que vérité et justice soient faites.
Cette tension entre un État et d'autres acteurs, on la retrouve, mais dans un registre différent, au Niger. Là, c'est un conflit entre le groupe nucléaire français Orano et les autorités militaires. C'est l'issue du coup d'État. C'est ça?
C'est exactement ça. La situation s'est vraiment envenimée début mai. D'abord, les locaux d'Orano à Niamey ont été perquisitionnés, du matériel saisi.
D'accord.
Et surtout, le directeur local, Ibrahim Kourmo, a été arrêté.
Arrêté, hein? Pour quel motif?
Eh bien, c'est là le problème. Selon Orano, aucun motif légal n'a été donné. Il qualifie ça d'arbitraire, d'action extrajudiciaire. Du coup, le groupe a porté plainte.
Et ça arrive dans un contexte qui était déjà compliqué, non? J'ai lu qu'Orano avait perdu le contrôle de certaines opérations, lancé des arbitrages internationaux.
Tout à fait. Le contexte était déjà tendu. Là, on est vraiment dans un bras de fer. D'un côté, la multinationale qui défend ses intérêts, ses employés. De l'autre, un régime militaire qui cherche à affirmer sa souveraineté sur un secteur clé comme l'uranium.
Secteur crucial pour l'économie du Niger.
Absolument, mais aussi source de tensions historiques. Cette crise, elle met en lumière les difficultés de la transition politique là-bas. Et ça pourrait avoir des répercussions économiques, diplomatiques.
C'est clair. Bon, changeons complètement de sujet. Mais pour un défi tout aussi majeur, le changement climatique.
Ah oui.
Un rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, vient de sortir. Et le constat pour l'Afrique en 2024, il a l'air assez sombre.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Le rapport confirme 2024, une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur le continent. Et les conséquences, elles sont très concrètes et dévastatrices. Le Maroc, par exemple, 6e année de sécheresse. La production agricole, moins 50%.
La moitié.
C'est énorme.
Énorme.
Et pareil au Zimbabwe, chute des rendements céréaliers. En Zambie, moins 43%. C'est colossal.
Et ce n'est pas que la sécheresse, j'imagine. Les inondations aussi.
Absolument. Des inondations terribles, meurtrières même, au Kenya, en Tanzanie, au Burundi, des centaines de morts. Et puis en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Nigeria, Niger, Tchad, là on parle de plus de 4 millions de personnes touchées par les inondations.
C'est fou.
Et ce qui est frappant, c'est que ce ne sont pas des événements isolés. Le rapport insiste, c'est une tendance qui s'intensifie.
Alors, même que l'Afrique contribue très peu aux émissions globales.
Exactement. Le continent est en première ligne, il subit de plein fouet les impacts du changement climatique.
Et l'OMM parle même de 100 millions de personnes de plus qui pourraient être exposées à ces risques d'ici 5 ans. C'est vertigineux.
Ça l'est. Ça pose des questions immenses sur l'adaptation, la gestion de l'eau, la sécurité alimentaire.
Forcément.
Et ça souligne l'urgence, bien sûr, des mesures d'adaptation locales, nationales, mais aussi de la solidarité internationale. Le financement climatique, quoi.
Un sujet clé?
Oui. On en parle beaucoup, mais les actions concrètes, elles peinent à suivre l'ampleur du défi. Et ces catastrophes ont des coûts humains, économiques, gigantesques.
Restons sur la scène internationale, mais côté santé. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, il y a une restructuration importante annoncée.
Oui, tout à fait. Une réduction de l'équipe de direction, notamment. Elle va passer de 11 à 6 membres.
Ah oui, quand même. Et ça très vite en juin.
Dès le 16 juin, oui. Et ça semble être une conséquence directe de contraintes budgétaires.
Assez forte.
Liée aux États-Unis, c'est ça?
En grande partie, oui. Il faut se souvenir de l'administration Trump qui avait annoncé le retrait des USA,
oui.
Prévu pour janvier 2026, et qui avait surtout suspendu les contributions américaines pour 2024-2025. Même si l'administration suivante est revenue sur le retrait, la pression financière, elle, est restée.
Et il y a des départs de personnalités connues. Michael Ryan, par exemple, qu'on a beaucoup vu pendant la pandémie. Oui, Michael Ryan quitte l'organisation. Bruce Aylward aussi, qui travaillait sur la couverture sanitaire universelle. D'autres sont repositionnés, comme Jeremy Farrar ou Sylvie Briand. Et le nombre de départements est réduit de moitié aussi.
La moitié. Quel impact ça peut avoir, concrètement, au-delà des changements de poste?
C'est la grande question. Moins de dirigeants, moins de départements. Est-ce que ça va affecter la capacité de l'OMS à mener ses programmes, surtout dans les pays vulnérables, ou pour répondre vite aux urgences sanitaires? Ce sera sûrement au cœur des discussions à la réunion annuelle des membres, la semaine prochaine. C'est une réorganisation faite un peu sous la contrainte, et ça inquiète sur l'efficacité future de l'OMS.
Compris. Bon, pour finir sur une note un peu différente, plus culturelle, le Festival de Cannes 2025.
Ah, Cannes.
Les articles qu'on a lus mettent en avant plusieurs films africains. Ça nous dit quoi sur le cinéma du continent aujourd'hui, cette sélection?
Elle montre d'abord une belle diversité. Diversité de regards, de sujets. On a par exemple deux films qui parlent de la migration subsaharienne.
Ah oui.
Oui, mais sous des angles très différents. Promis le ciel d'une réalisatrice franco-tunisienne, Erich Seriri, ça se passe en Tunisie. Et Aïcha Can't Fly Away, d'un Égyptien, Morad Mustafa, ça se passe au Caire. L'un explore plutôt une solidarité, même si elle est précaire. L'autre, plus les tensions, l'invisibilité des migrants.
Intéressant. Il y a aussi un polar, non? Au Cameroun.
Oui, Indomptable, de Thomas Njijol. Ça a l'air d'aborder la corruption, les dilemmes moraux.
Et puis un film nigérien qui marque l'histoire du festival, c'est ça?
Exactement, My Father's Shadow, d'Akinola Davis Jr. C'est le tout premier film nigérien en compétition officielle à Cannes.
Incroyable.
Oui, et il revient sur la crise politique de 1993 au Nigeria. Un moment clé. C'est un signe fort de la vitalité et de la reconnaissance du cinéma nigérien.
Et il y en a d'autres encore?
Oui, il y a aussi un court-métrage marocain, Lumina, sur les mineurs informels à Gerada, avec une approche documentaire qui a l'air assez innovante, et puis un film plus personnel, un documentaire franco-égyptien, La vie après Siam, sur le deuil, la mémoire familiale.
C'est intéressant comme ces cinéastes s'emparent de sujets sociaux, politiques, historiques, parfois durs, mais aussi de récits plus intimes.
Tout à fait. Ces films, ils offrent des perspectives vraiment ancrées dans des réalités africaines spécifiques, mais qui peuvent résonner partout. Ils témoignent de la complexité des sociétés, des défis actuels, mais aussi de la résilience, de la créativité. C'est une vitrine importante pour ces voix, ces histoires.
C'est sûr. Alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, la politique canadienne et le sort de cette ministre d'origine burundaise, les tensions au Kenya, le bras de fer au Niger, le climat qui s'emballe, l'OMS qui se réorganise sous pression, et ces films qui racontent le continent. Quel tableau général ça dessine finalement?
Ce qui frappe, c'est peut-être cette impression de système sous tension, partout. Tensions politiques internes, comme au Kenya, ou même au Canada avec ce remaniement, tensions dans les relations internationales, ou avec des acteurs économiques puissants, comme Orano au Niger, tensions liées à l'environnement qui change brutalement, on l'a vu avec le rapport de l'OMM, et même des tensions budgétaires qui affectent les grandes organisations mondiales, comme l'OMS. Les sources nous montrent plein de points de friction, en fait.
Et on voit bien comment tout est lié aussi. Une décision à Washington qui a des répercussions sur la santé mondiale. La crise climatique qui impacte l'agriculture au Zimbabwe de façon très directe. Les dynamiques politiques internes au Canada ou au Kenya, tout ça a des visages, des histoires.
Précisément, l'interconnexion est évidente. Les enjeux locaux sont souvent traversés par des forces globales, et inversement. Et le cinéma, lui, il agit comme un miroir, parfois critique, parfois empathique, de toutes ces réalités qui s'entremêlent.
Donc, ces différentes dépêches, ce sont des fragments, en fait. Des fragments d'un monde complexe, où l'Afrique se trouve au cœur de nombreux défis d'aujourd'hui. Qu'ils soient politiques, environnementaux, sociaux.
C'est ça. Et face à toutes ces pressions, l'instabilité, le climat, l'économie, ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite.
Ah, chaud.
Oui, au-delà des tensions et des crises qu'on a survolées là, quelle forme de résilience ou quelles innovations sociales, politiques, culturelles même, sont en train d'émerger ou pourraient émerger sur le continent pour naviguer dans ce contexte un peu tumultueux? C'est une piste de réflexion qui reste ouverte, je crois.
Une question essentielle, en effet. Et c'est sur cette ouverture qu'on termine notre analyse des sources aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.